à tous, nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Rivers. Et une fois n'est pas coutume, je suis accompagné de Théo, pas de Shai. Shai qui prend un repos bien mérité. Et du coup, Théo, on va pouvoir décrypter ensemble les matchs de la nuit, sachant qu'il y a une série qui, je pense, nous deux, nous intéresse particulièrement entre deux équipes qu'on aime bien. C'est le duel entre Dallas et OKC, le Thunder qui a gagné 117 à 95 cette première manche. Le score peut sembler large. Et j'ai trouvé, moi, Théo, perso, que ça s'est joué sur, au final sur une accumulation de petites choses. Et j'ai trouvé qu'OKC était très, très bien préparé. C'est les principaux constats que je fais pour te lancer là-dessus. Voilà, qu'OKC semblait très bien préparé. Et le Thunder qui remporte, du coup, cette première manche.
Ouais, ouais, bah je partage ton avis. J'ai trouvé que même les deux équipes, en fait, ont commencé le match de manière, enfin, avaient un plan de jeu très clair. C'était notamment des deux côtés, en fait, c'était d'interdire l'accès au cercle. Dallas, j'ai trouvé a commencé très très bien défensivement. Et alors moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un moment où ça avait tourné, parce qu'en fait, ça a commencé à 2000 à l'heure. Il y avait pas forcément beaucoup de paniers parce que ça défendait très bien d'un côté comme de l'autre. Et il y a un moment sur une action qui semble un peu anodine, là, un tir lointain, Luka Doncic vient contester, il se prend les pieds tout seul ou enfin vraiment il y a pas faute, il tombe au sol et derrière derrière il se relève en boitant et derrière j'ai eu le sentiment que Dallas avait jamais réussi à retrouver vraiment de rythme en attaque et que ce qu'on s'était dit un petit peu en regardant la série face aux Clippers où le déclic pour Dallas c'est le moment où ils ont arrêté de jouer en marchant et se sont mis à hausser le rythme offensif, à courir plus, à être plus dans l'activité. Et j'ai l'impression qu'avec la blessure de Luka, là, enfin du moins, il s'est reblessé à nouveau dans ce match-là, c'est le moment où Dallas s'est mis à marcher et ensuite à marcher tout du long. Et petit à petit, comme tu l'as souligné, alors, il y a eu des runs hein, d'OKC, un 11-2 par-ci, un 14-4, je crois, par-là dans le troisième quart-temps. Mais Dallas revenait et finalement, il y a un moment où ils n'ont plus été en capacité de revenir.
Ouais, donc si s'est fait mal à la cheville, je crois. Alors après, pendant le match, ils ont vachement nuancé le truc. Les Jared Dudley, qui est assistant coach au Mavs, a dit non, mais tout va bien. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Et j'ai trouvé que. D'ailleurs, Doncic, il finit donc à 19 points et 6 sur 19. Ce qui me marque, c'est pas tant le 6 sur 19, c'est le fait qu'il soit. En fait, il va quasiment plus du tout au cercle. C'est là où je me dis qu'il est diminué. C'est que tu vois, il y a une bonne défense de Lou Dort sur lui. Mais la réponse de Doncic, c'est de toute façon de provoquer un pick and roll et d'avoir un autre, voilà, de forcer un switch et de plus se retrouver avec Lou Dort sur lui. Donc, j'ai pas tant eu le sentiment que Lou Dort le gênait plus que ça. C'est surtout que j'ai l'impression que Doncic, il a pris beaucoup de tirs de loin. Et sur ses playoffs, il est à 39% au tir, 22% à 3 points. Et je me dis que là, s'il est diminué, faudrait que Dallas, est-ce que Doncic peut faire 4 matchs où il est à 60% au tir sur des mid-range, ses step-back habituels, il en a raté pas mal, certains où parfois ça a tourné autour du cercle. Mais ouais, du coup, la blessure de Doncic va être la blessure de Doncic aggravée est un vrai facteur sur cette série. Tu te dis, est-ce que Kyrie Irving va prendre le relais? Enfin bref, il y a pas mal de trucs comme ça. Le Thunder a une vraie défense intéressante avec de toute façon de la taille, des qualités athlétiques. Et au-delà de Lou Dort, je vais te lancer sur un autre joueur que tu aimes bien, c'est Chet Holmgren. Moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné sur ce match. Parce que déjà, donc, je parlais des switches. Quand tu te retrouves en pick and roll, c'est lui qui souvent s'est retrouvé sur Luka ou Doncic. Il a très bien tenu avec sa mobilité. Son autre atout, c'est sa taille. Et je trouvais qu'à lui tout seul, il a annihilé la menace verticale Gafford-Lively, qui est un vrai facteur important pour Dallas et qu'on a peu vu sur ce match, je trouve.
Ouais, Holmgren, moi, ce qui m'impressionne vraiment, hein, c'est quand même sa justesse, en fait. T'as l'impression qu'il force rien. T'as raison, là, il fait 19 points, 7 rebonds, il a 8 sur 16 au tir. Et même, tu sais, dans le quatrième quart-temps, à un moment, il met ses stats. J'avais pas du tout fait gaffe, en fait, qu'il avait marqué autant de points, entre guillemets. C'est un match, quand même, qui a longtemps été très défensif. Ouais, voilà, les bons choix. En ce qui concerne le secteur intérieur de Dallas, je pense qu'il va être déterminant parce que finalement, Daniel Gafford finit avec 16 points, 11 rebonds, mais il a raté énormément de choses. Il finit à 5 sur 12 au tir. Et là, il y a une vraie marge quand même de progression. Je pense que Lively n'a pas beaucoup joué finalement dans ce match-là. Mais je me demande quel va être l'ajustement de Jason Kidd à ce niveau-là. Parce que Dallas avait ciblé vraiment quand même... avait ciblé ses intérieurs. Il y a plein de fois, notamment dans le troisième quart-temps, quand ils reviennent un petit peu, ils jouent pour Daniel Gafford. Mais j'ai l'impression que s'il ne dunk pas, en fait, Gafford, derrière, il se jette systématiquement. Il reçoit la balle, il se jette vers le cercle. Tu l'entends faire comme ça, systématiquement, sur toutes tes actions. Mais,
c'est exactement ça.
Mais ouais, mais il y a un moment, tu sais, en plus, comme tu dis, Chet Holmgren, il est grand, il saute très bien, enfin, tu sais, avec la règle de la verticalité. ça suffira pas, il faut un peu plus de finesse. Et je trouve, au bout du compte, que parfois Lively a un peu plus de finesse ou de capacité à varier un petit peu les finitions, à pas chercher uniquement le dunk. Donc c'est pas pour dire qu'il a fait un mauvais match, Gafford, mais je pense qu'il faut qu'il s'ajuste un petit peu à ça et qu'il propose autre chose. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, avec Luka qui est gêné, c'est vraiment ce type de situation que Dallas avait ciblé. Je pense que ça peut payer, mais il faut plus de réussite, quoi. Là, tu peux pas. Enfin, je sais pas
Là,
quelle est
les
la
deux
réussite, j'ai pas regardé la réussite
les
globale. 39% de réussite, ça, sur le
39% au
match.
tir,
Ouais, voilà,
ouais.
c'est.
Et les deux cumulés, Gafford et Lively, ils sont à 6 sur 15, ce qui est, oui, c'est ça, 6 sur 15, ce qui est très peu en fait pour eux deux. C'est des mecs qui normalement sont à 70% au tir, et j'ai exactement le même constat que toi sur Gafford. C'est-à-dire que même quand il a, tu sais, même quand il reçoit la balle à 3 mètres du cercle, on a l'impression qu'il se lance en avant.
Il n'a pas
Il
de
saute
dribble
tout
du tout, il
droit,
saute
tu vois.
direct.
Effectivement, bah, il manque de justesse et de réussite sur ces tirs-là. Mais ouais, ça va être un point important, l'absence de Kleber. Pendant le match, je me suis fait la remarque. Je trouvais que Lively, il m'a semblé un peu timide par moment.
Ouais, et puis
Mais
il fait
il est
une ou
jeune.
deux vraies mauvaises passes. Voilà, ses premiers playoffs, c'est un rookie, hein, ça, on en revient à ça. Finalement, Gafford, c'est un rookie aussi à ce niveau-là. Il a jamais fait les playoffs de sa vie. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent quand même ce niveau de jeu et d'intensité du côté de Dallas.
Mais c'est là où Kleber. Moi, en fait, en voyant ça, je me suis dit, c'est vrai que l'absence de Kleber, parce que du coup, tu peux pas proposer autre chose. Si c'est un truc de se dire, bah voilà, on tente de jouer avec un pivot enfin, small ball, même s'il n'est pas small, Kleber, mais juste histoire d'étirer les lignes et de tirer. Et là, t'as pas ça. C'est un vrai facteur là aussi sur cette série.
C'est clair, d'autant que l'avantage de Kleber, c'est que tu peux même le faire jouer avec un autre grand, parce qu'en fait, il est vraiment hyper fiable dans le tir à 3 points. Et là, on l'a vu, en fait, sur la fin de match, il y a eu quand même aussi beaucoup de maladresse à 3 points. Jason Kidd qui a pas trouvé finalement sur quel joueur compter. Là, il y avait Tim Hardaway Jr. qui revenait, qui a joué 17 minutes. Mais c'est quand même, enfin, Tim Hardaway, je trouve que c'est hyper dur entre un bon match et un mauvais match de Tim Hardaway. Il y a un gap qui est tellement énorme. Que bon, là, c'est pas pour le fustiger, mais tu sens quand même que Jason Kidd cherchait sa rotation. Josh Green commence super bien, et puis à la fin, il met plus un tir. T'as Dante Exum qui vient, qui rentre un petit peu, qui ressort. C'est vrai que Kleber, là, je pense qu'il manque beaucoup dans cette justesse. C'est que Dallas, c'est une des équipes, c'est même l'équipe, je crois, qui prend le plus de tirs à 3 points dans les corners. Et bah là, si à l'intérieur, tu fixes à l'intérieur, mais que t'as de la maladresse et que tu peux pas ressortir avec réussite, c'est compliqué. Si Luka Doncic a été vraiment diminué dans ce match-là, à voir quand même dans le prochain match. Je suis curieux de voir si du coup, Kyrie essaiera de prendre, enfin, prendra ses responsabilités plus tôt dans le match. C'est pas qu'il se cache, mais on a senti qu'il y avait un petit peu cet équilibre entre les deux, avec Luka qui commence et puis
Kyrie qui
Kyrie
termine.
qui, voilà, qui termine. Il a bien terminé d'ailleurs dans ce match-là. Et faut rappeler que voilà, Jason Kidd a remballé tout le monde au bout de. Il restait 5 minutes à jouer encore, il a mis tout le monde sur le banc parce qu'il voyait qu'il n'allait pas pouvoir prendre ce match et il préférait préparer la suite. Donc le score est un peu trompeur aussi de ce côté-là,
Oui,
du score final.
c'est pour ça que je suis d'accord. C'est pour ça que je disais au début que, au final, je trouve que ça s'est pas joué sur tant de choses. J'ai l'impression qu'on aura une belle série, une série tactique avec une bataille tactique parce qu'il y a des ajustements à faire. Les Mavs ont raté au final beaucoup de tirs. J'ai l'impression que PJ Washington peut aussi beaucoup apporter dans cette série et il n'a pas eu non plus énormément de ballons. Il a été gêné par des fautes. Du côté du Thunder, il y a un truc que j'aimerais souligner, c'est le rebond. Là, c'est pour ça que j'ai dit le Thunder était bien préparé au-delà de tous les ajustements, enfin de tout le plan défensif. Notamment sur Luka, sur les pick and roll, sur Kyrie Irving, sur les intérieurs. J'ai trouvé que le Thunder, donc une de leurs faiblesses, on le sait, c'est le rebond. C'est une des plus mauvaises équipes au rebond cette saison. Et là, ils ont complètement dominé au rebond. Il y avait une vraie énergie, une vraie envie. 52 à 39, ça c'est de la stat sur les rebonds, dont 16 offensifs. J'ai pas le nombre de points, j'ai pas regardé le nombre de points qu'ils ont mis sur rebond offensif, mais en tout cas, clairement, il y avait, tu voyais Dort y aller comme un acharné, il fonçait à aller prendre des rebonds. Il y a aussi d'ailleurs des moments où les Mavs, je pense, ont été trop paresseux presque. Ça a manqué de box-out, mais voilà, Holmgren, Jalen Williams fait une très bonne entrée.
Ouais, et la fin de match de Jalen Williams, pardon.
Oui,
Je
Jalen,
pensais
oui,
que tu parlais, oui, t'as raison.
Jalen, du coup, oui,
Ah,
Jalen
très bien,
Williams fait
puis.
une très bonne fin de match et Jalen
Ouais.
Williams a fait, je trouve, une bonne entrée globalement à ce
Ouais.
niveau-là.
Non, non, c'est clair. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Holmgren et en rapport avec le rebond, c'est sur la fin, Dallas a essayé de jouer small ball et ils se sont fait punir. Ils se sont fait punir dans la raquette tout de suite. Donc je pense que ça sera pas une bonne option, du moins à moins que Chet Holmgren soit ait des problèmes de faute ou autre. Mais c'était intéressant de l'avoir tenté, mais ils se sont vraiment fait punir tout de suite. Cette équipe de ce qui est intéressant en fait avec cette équipe d'OKC, il y a un mélange, il y a une opposition de style plutôt. J'ai regardé dans les 3 premières minutes du match du Thunder, tous les joueurs qui étaient sur le terrain avaient tenté un tir. La balle tourne énormément, alors que du côté
Exactement.
de Dallas, c'est vraiment pas du tout la même façon de jouer. Et effectivement, sur la fin de match, il y a eu des coupes des joueurs. Enfin, je pense à une action où t'as SGA qui est coincé sur la ligne de fond. Il y a une prise à deux et tout de suite il y a une coupe. Je crois que c'est de Aaron Wiggins qui vient se présenter pour finir, qui a fait un match énorme d'ailleurs, Aaron Wiggins,
Ouais, très très
sur ce
bon.
match-là. Et c'est la difficulté à laquelle Dallas va devoir faire face. Je pense qu'ils ont les ressources défensives pour pouvoir s'adapter, mais c'est vraiment aussi un contraste de style avec ce qu'ils ont pu connaître au tour précédent face aux Clippers, où là aussi l'attaque était beaucoup plus prévisible, je pense, que ce qui se passe du côté du Thunder.
Ce sera intéressant d'ailleurs de suivre un peu sur l'ensemble de cette playoff. Ça peut être un espèce de fil rouge de ces playoffs, de voir les équipes qui font. Est-ce que les équipes qui font le plus tourner la balle sont celles qui vont finalement le plus loin? Parce que je suis d'accord, c'est que ça rend nettement le jeu nettement moins prévisible. Il y a plein de moments justement, et puis tu peux beaucoup plus pousser la défense à la faute. J'ai le souvenir d'une action où Jalen Williams justement il drive et il y a une coupe dans le dos de Luka. Tu vois, ces deux points faciles. Je sais plus qui met les points. C'est peut-être Wiggins d'ailleurs. Tu vois, c'est peut-être Wiggins. Mais c'est des joueurs. Le Thunder a pas peur de laisser des tickets shoot à des Aaron Wiggins, à des Isaiah Joe, à Jalen Williams, même à Josh Giddey qui je pense va très peu jouer dans cette série. Mais tu vois, y a cette volonté de faire participer tout le monde, et c'est vrai que ça fait une différence aussi. Ouais.
Ouais, en tout cas, c'était un match super plaisant. Voilà, encore une fois, on le répète, mais le score final représente pas l'intensité de ce match qui s'est joué vraiment. Je pense que début du quatrième quart-temps où là, OKC a vraiment mis sa marque sur le match. Mais moi, je me suis régalé devant ce match-là, en tout cas.
Allez, on peut passer au deuxième match de la soirée avec une autre victoire assez large au niveau du score. C'est celle de Boston qui a battu Cleveland 120 à 95, 25 points d'écart. Il y avait une des clés de cette série, c'était de se demander est-ce que les Cavaliers arriveraient à suivre le rythme à 3 points des Celtics? Bah, pour le coup, non. 18 paniers à 3 points pour Boston, dont 7 pour Derrick White, qui n'est plus le même homme. Derrick White, sur les derniers matchs, c'est 38 points, 25 points, et là encore 25 points. Et voilà, les Celtics qui enchaînent avec une nouvelle victoire assez large.
Bah oui, victoire large. Alors là aussi, Cleveland a quand même s'est battu. Ils étaient longtemps à moins 12, moins 8, moins 12, moins 8, et puis à la fin, ils ont fini par exploser. Le problème pour Cleveland, c'est tu dis, bon, ok, on risque de prendre cher à 3 points, c'est normal. Toutes les équipes prennent cher à 3 points face aux Celtics. Par contre, est-ce que tu peux, si tu es une équipe sérieuse qui veut aller loin, te permettre de laisser Luke Kornet finir avec 10 rebonds en sortie de banc? Ils se sont fait exploser au rebond. Et c'est là le problème pour Cleveland, c'est que si tu prends le risque de prendre cher à 3 points, tu peux pas en plus t'exposer et laisser autant de rebonds. Laisser autant de rebonds. Ils se sont fait exploser 55 à 38 au rebond. Le différentiel, il est énorme en fait, parce que tu peux pas laisser autant de choses aux Celtics. Cette équipe de Cleveland. Alors, ouais, moi je vais saluer quand même encore une fois la perf de Donovan Mitchell. Il est irréprochable sur ses playoffs, finit avec 33 points. Mais tu dis, à un moment, il faut qu'il puisse être aidé. Et moi, je suis hyper déçu vraiment par les playoffs de Darius Garland. On en parlait un petit peu en off avec Shai et toi les jours précédents. S'il est à ce niveau, tu peux pas jouer en fait. T'as un
Bah,
backcourt qui est
c'est
trop
pas un
petit.
All-Star. Là,
Ouais,
là, là, il n'est
exactement.
pas digne de son statut All-Star, quoi.
Parce qu'il finit avec 15 points, mais avec un, je sais plus, 14 points. Non, 14 points à 6 sur 15, 5 passes décisives, c'est pas assez, sachant que défensivement, il se fait exploiter systématiquement par Boston. Ouais, ça manque vraiment de ressources du côté des Cavs. Et je continue de pas comprendre vraiment. En fait, j'ai une question à te poser, Antoine. C'est est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de la concertation entre le GM et le coach au moment où ils ont construit cette équipe à l'été dernier? Parce que j'ai du mal à comprendre quelle est l'identité de l'équipe au bout du compte. Sachant qu'il leur manque un All-Star en la personne
Jarrett Allen.
Jarrett Allen, pardon. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine.
Très bonne question. Bah, il y avait une volonté, c'était de cibler du shoot, mais. Mais effectivement, moi, il y a un. C'est bon. Tu vois, quand je vois Tristan Thompson, il a joué 16 minutes. Alors, ça peut aller dans ce souci, tu vois, de prendre des rebonds. Mais George Niang, il joue pas. Il a été recruté exactement pour ça, pour étirer les lignes, pour tirer à 3 points. Sam Merrill, il a eu des très bons passages. Bon, là, pour le coup, il a joué 17 minutes. Il fait 0 sur 4. Mais il y a cette équipe des Cavs, de toute façon, elle est un peu particulière parce qu'il y a eu, il y avait la volonté de se dire, bah, on a deux grands, puis on met du tir autour. On a un backcourt petit. C'est un peu particulier. On a un backcourt petit. On a un front court très grand. Mais du coup, on a besoin d'adresse pour étirer les lignes et on a besoin de mecs qui protègent la raquette. C'est un peu particulier. Est-ce qu'il y a une concertation? De toute façon, est-ce que Bickerstaff, il va vraiment encore rester longtemps au sein de cette équipe? Je pense que bientôt, le GM, il va choisir son coach de toute façon. Mais ouais, et puis là, Max Strus fait pas forcément un bon match en termes d'adresse. Il est à 2 sur 8, 5 points pour lui. En fait, il y a que c'est Mitchell. Offensivement, tu l'as dit, c'est un peu Mitchell contre le reste du monde, quoi.
Evan Mobley fait un bon match quand même hein, en termes d'adresse, quoi. 17, 13, 17 points, 13 rebonds, 3 passes, 1 contre et 8 sur 12 au tir. Donc c'est autour que ça pêche. En fait, la question que je te posais pour la concertation entre le GM et le coach, c'est qu'effectivement, déjà, j'avais pas trop compris pourquoi tu prenais à la fois Strus et George Niang. Je me disais, mais comment tu vas faire jouer les deux vraiment, sachant qu'il y en a un qui est quand même limité en défense. Sam Merrill, bah là, il fait pas un bon match, mais sur le début des playoffs, je comprenais pas pourquoi il jouait quasiment pas du
Ouais, je
tout.
vais quasiment pas, ouais.
Alors que, alors je dis pas, lui aussi découvre un petit peu ce niveau-là, mais c'est un joueur qui avait montré sa valeur. Je sais que tu l'aimais bien en saison régulière et je te donnais raison, quoi, qu'il pouvait t'apporter des choses. Et là, t'es tellement en difficulté, je trouve, offensivement, sorti de Donovan Mitchell, que faut tenter des choses. Bref, enfin, tu vois, au début, je me disais, bon, bah, dans la foulée en fait, de leur qualification en 7 manches, finalement, tu peux arriver plein d'euphorie du côté de Cleveland. Les Celtics pouvaient se la couler douce, peut-être. Tu vois, et tu peux peut-être tenter un truc, mais bon, là, ça me semble compliqué. En tout cas, tu peux pas laisser autant de tirs à 3 points, autant de rebonds si tu veux essayer de passer Boston.
Boston du côté, je vais donner quelques stats quand même. 32 points pour Jalen Brown, 18 points, 11 rebonds, 5 passes pour Jason Tatum. On rappelle les Celtics, ils jouent sans Kristaps Porzingis, qui sera sans doute pas là de la série. Et je me projetais vite fait sur Boston. Honnêtement, bon, on n'a peut-être pas vertu de donner des pronostics, mais je vois vraiment pas qu'il y a rien qui peut empêcher Boston d'aller en finale NBA. Par contre, ce qui me fait peur pour eux, j'espère si jamais ils devaient jouer les Knicks ou les Pacers, qu'il y aurait une bataille en phase 2. Je suis désolé pour les fans des Cavs, hein, il n'y a eu qu'un seul match, mais bon, je ne vois vraiment pas comment Cleveland peut gagner 4 matchs dans cette série. Les Celtics, ils risquent quand même fortement d'arriver en finale NBA sans avoir rencontré la moindre adversité. Et d'un coup, ils vont se coltiner une équipe de l'Ouest, que ce soit Minnesota, OKC, Dallas ou Denver. Il va y avoir un gap, mais énorme en fait.
Alors c'est dur de se projeter parce que c'est un peu injuste pour les autres équipes. Je pense quand
Je
même
sais.
que si la finale de conférence devait être, on va prendre les deux équipes qui
New
mènent pour
York.
l'instant la conférence Est contre New York, ça sera pas une partie de plaisir. Ça veut pas dire que Boston peut pas passer, mais ça sera quand même. Ça peut même être, imaginons pire scénario, et je pense pas que ce sera le cas, mais imaginons un scénario où c'est un sweep. Je pense que ça sera un sweep dans lequel tu laisses quand même des plumes et dans lequel tu dois vraiment être poussé dans tes retranchements.
Physiquement, ouais.
Physiquement et puis mentalement aussi, parce qu'on a vu la résilience de cette équipe de New York, mais voilà, encore une fois, hein, c'est pas, si vous êtes fan des Cavs ou des Pacers, on dit pas que ça sera forcément aussi simple que ça, mais je pense qu'ils peuvent être testés et que bah, finalement, l'absence de Porzingis, ça peut peser cher, parce qu'on sait que cette équipe de Boston, elle est énorme sur son 5 de départ finalement. Mais si tu as un autre joueur qui est un petit peu diminué, un petit peu blessé, tu peux t'embêter à aller vers des séries longues. Je pense que c'est pas forcément, ça sera pas forcément aussi simple que ça pour Boston.
Ouais, je pensais pas forcément à simple, c'était plus vraiment une histoire de. Je les imagine pas avoir besoin de s'ajuster à un moment tactiquement, tu vois. Juste jouer leur jeu. Après, oui, les Knicks, évidemment, les Knicks, on sait que ça t'offre une belle bataille dans tous les cas, mais il faut voir dans quel état ils arriveraient, même les Knicks, tu vois.
Mais
Avec
ça,
des
c'est
joueurs
clair.
qui jouent 48 minutes chaque soir, comment ça se passe une fois en finale de conférence, tu vois. Mais bon, on verra. C'est un truc sur lequel je me dis que ça peut jouer en défaveur des Celtics, c'est de se dire, en fait, tu arrives très confiant en finale de conférence, mais tu n'as jamais eu besoin de t'ajuster, tu t'es jamais vraiment retrouvé dans de l'adversité, tu vois. Peut-être tu as été testé physiquement, mais est-ce que tu t'es retrouvé dans l'adversité avec un moment où tu paniques et tu dois. Je sais pas, tu arrives contre les Timberwolves, tu perds direct le game 1 à domicile, le game 2, tu es obligé d'aller vraiment le chercher. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où Boston s'est retrouvé dans cette situation.
Après, bon, pour répondre à ta question, et puis après, je vais m'arrêter, mais pour Boston, l'idée, c'est que bah, ces batailles-là, ils les ont eues par le passé, quoi. Et que là, effectivement, si, normalement, c'est ça qui est censé t'avoir préparé à passer ce fameux cap, et c'est pour ça qu'au bout du compte, même s'ils ont dominé toute la saison régulière, il y a une forme de pression pour Boston, parce que... Ah voilà, là, limite, c'est quoi ton excuse s'il y a un truc qui bloque encore cette année? C'est quoi ton excuse, quelque part?
Allez, on s'éloigne un peu des playoffs. On peut parler d'abord quand même un petit peu de Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a eu son 4e trophée de meilleur défenseur de l'année. Je t'avoue, Théo, que je suis un peu soulagé quand même que ce soit lui qui l'ait eu et pas Victor Wembanyama. C'est pas de la hate, hein. J'aime beaucoup Wembanyama, mais j'aurais trouvé ça presque déplacé, en fait. Que ce soit Victor qui soit élu meilleur défenseur de la saison, j'ai l'impression que Gobert est quand même vraiment dans son domaine la référence absolue. Je pense qu'on le voit. Je sais que les Timberwolves ont encaissé 80 points contre les Nuggets sans Rudy Gobert, donc on pourrait se dire, bah, vous voyez, c'est pas que Gobert, et évidemment que c'est pas que Gobert, il y a McDaniels, il y a Alexander Walker, mais même après ce match-là, les Timberwolves ont quand même réussi à rendre hommage à Gobert en disant non, mais nous on fait ça parce que lui, il a instauré une culture défensive. J'ai l'impression qu'il est au sommet de son art et du coup, ça m'a fait plaisir de le voir décrocher son 4e DPOY et ça fait de lui le co-détenteur du record avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo.
Bah ouais, les trois recordman en la matière, ouais, ça fait plaisir pour Rudy, franchement, pour tout le travail établi. En plus, il y avait ce fameux sondage qui était sorti peu de temps avant les playoffs, là où il avait été élu parmi un panel de joueurs sondés et anonymes, joueur le plus surcoté de la ligue.
Et voilà, sixième seulement parmi les meilleurs défenseurs.
Non, mais ça fait super plaisir. Et je suis d'accord avec ce que tu disais sur le match 2 là, des Wolves, où quand même, c'est justement... Bah, toutes les habitudes défensives qui ont été bâties. Alors, c'est pas Rudy Gobert, c'est le coaching staff, c'est les joueurs, comme tu as dit, Jaden McDaniels, etc. Mais quand même, tu peux pas nier l'impact maintenant qu'il a dès qu'il arrive dans une franchise. Le fait que tu puisses construire tout un système défensif autour de lui et que ça permette à chacun de monter en pression, monter en régime. Donc, on est content pour Rudy. Ça fait deux Français. J'avais envie de dire trois parce que Marc Daigneault, avec un nom comme ça, on devrait pouvoir dire qu'il vient de chez nous aussi. Mais c'est pas mal.
Il
ne
veut pas coacher les Bleus après les JO, Marc Daigneault, au passage.
À suivre, mais en tout cas, non, ça fait plaisir d'avoir en peu de temps deux Français récompensés par des trophées individuels. Victor, comme tu en as parlé, pour le trophée de rookie de l'année, et puis Rudy pour le trophée de DPOY. Et je t'avoue que j'ai eu peur en fait quand j'ai vu que Nasrid était élu meilleur sixième homme de l'année. Je me suis dit, ça sent mauvais. Ils ont filé un truc aux Wolves qui se sont dit, on doit les récompenser pour leur belle saison, et puis derrière, ça va pas être pour Rudy. Mais non, ça fait plaisir de voir Rudy, et je repense à cette quote de février, je crois, où il disait au sujet du All-Star Game, c'est pas grave, je pourrais sortir des blagues quand je rentrerai au Hall of Fame en disant que j'ai pu me reposer toutes les fois où j'ai pas été sélectionné pour le All-Star Game. Là, quatre fois ouais. DPOY, genre, c'est validé. Hein.
Ouais, bah, c'est sûr, ouais, c'est clair, je suis d'accord, ça te donne la porte d'entrée au Hall of Fame quasiment garantie. Ce soir, il y aura un seul match, c'est celui entre les Knicks et les Pacers. D'ailleurs, une petite info pour les Knicks, Mitchell Robinson, blessé à la cheville, 6 à 8 semaines, donc en gros, pas de Robinson. Bon, de toute façon, c'est pas comme Thibodeau, c'est comme si Thibodeau faisait jouer particulièrement ses remplaçants, mais ça fait encore un homme de moins du côté de New York, sachant que c'est quand même un mec qui a joué 12 minutes parmi les remplaçants, c'est celui qui a le plus joué lors du Game 1 contre les Pacers. Là, on est parti pour... Ouais, il va utiliser 7-8 joueurs, quoi.
Ouais, coup dur hein, quand même pour New York, parce que c'est... même si il était déjà diminué, ce qui expliquait son temps de jeu réduit, entre guillemets. Mais même dans la série précédente, c'était... contre Philly, c'était impressionnant, parce que tu voyais vraiment qu'il pouvait à peine s'appuyer sur son pied. Il allait quand même au rebond, il défendait, etc. Cette équipe de New York est exemplaire sur cet aspect-là. Coup dur quand même pour New York, effectivement.
Ouais. Et du coup... Alors, il n'y a pas de match des Nuggets. Les Nuggets rejoueront contre les Timberwolves que vendredi. Mais une petite info pour Jamal Murray aussi, il n'a pas été suspendu. Voilà, Jamal Murray qui avait tenté de lancer un heat pack. Je ne sais pas comment tu traduirais ça en français.
Je ne sais pas vraiment. C'est un peu comme les packs de glace que tu peux faire chauffer aussi. C'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Ça. Voilà, c'est ça. Il a visé l'arbitre. Apparemment, mais il est. Alors, et peut-être heureusement pour lui d'ailleurs qu'il n'a pas touché l'arbitre. J'imagine que la sanction aurait pu être plus lourde. Mais au final, il a pris que 100 000 dollars d'amende et pas de suspension. Bon, c'est quand même mieux pour les Nuggets d'avoir Jamal Murray pour le Game 3, le premier à Minnesota. Ils ont intérêt quand même à être au complet, sachant qu'ils sont menés 2-0 dans cette série quand même.
Ouais, c'est clair. C'est bien qu'il ait pris une vraie grosse amende parce que c'est quand même un geste dangereux. Hein. Juste avant, il avait jeté une serviette. Pareil, si ça tombe sur le parquet et que quelqu'un glisse dessus, c'est hyper dangereux. Je préfère, d'un point de vue sportif, qu'il puisse disputer le prochain match. Par contre, voilà, c'est quand même un type de geste qui n'a rien à faire sur un terrain de basket. J'espère aussi que Mike Malone se contiendra mieux que dans le match précédent. Parce que la confrontation avec c'était Mark Davis, je crois, l'arbitre.
Il était vraiment pas loin de lui mettre une droite.
Bah, ouais, c'est quand même, voilà, je pense aussi que ça a pas sa place sur le terrain. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce match 3, match qui sera, c'est quasiment déjà le match décisif de la saison des Nuggets.
Ah bah ouais, clairement. Bah là, une défaite, je pense qu'on peut partir du principe que ça serait fini. Aucune équipe n'a jamais remonté un 0-3 en playoff. C'est pas par hasard. Et d'ailleurs, même gagner 4 fois en 5 matchs, là, ça va être grosse mission pour les Nuggets. Il y a un vrai challenge qui les attend. Et du coup, ça sera un match qui est vendredi soir, je crois, ou dans la nuit de vendredi à samedi. Nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. On sera encore tous les deux Théo. Et du coup, on débriefera le match des Knicks contre les Pacers. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Salut.